France Inter.
Depuis plus de 25 ans, l'historien Jean-Noël Jeannet, l'un des hommes dont j'admire le plus la maîtrise de la langue française, offre aux oreilles curieuses la formidable émission Concordance des temps sur France Culture. Ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, puis à la communication sous la seconde présidence de François Mitterrand, l'érudit fut aussi président de Radio France et de la BNF. Auteur de nombreux ouvrages et documentaires sur la vie politique française et les médias, il fut également conseiller régional de Franche-Comté, président des Rencontres d'Arles et dirigea les cérémonies du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sa répartie foudroyante a donc aussi bien été au service de l'État qu'à celui des psychés d'auditeurs avides de connaissances. L'homme au savoir encyclopédique, professeur émérite d'histoire politique et culturelle à Sciences Po, a publié des essais et les deux premiers tomes de ses mémoires, écrit et monté des pièces de théâtre, imaginé un album et un livret de chansons, et rend, par son regard ludique et intelligent, n'importe quel sujet intéressant. Il vient de faire paraître l'anthologie Une République française, 1870-1940, aux éditions Bouquin, ouvrage consacré à sa période de prédilection, la Troisième République. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Jean-Noël Jeannet.
Bonsoir, il m'est arrivé d'être accueilli de façon plus rugueuse.
Ah bah écoutez, je sais qu'on parlera par euphémisme ce soir. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé ? Outre le plaisir d'être ici, naturellement.
Évidemment, même si peu de choses peuvent le surpasser.
J'aurais dû vérifier, prévoir vos questions. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'étais au théâtre récemment, j'ai vu une très belle interprétation des Liaisons dangereuses à la Comédie des Champs-Élysées. C'est un des plus beaux livres qui soit.
Oui, il paraît. Est-ce qu'on peut en tirer des leçons de pouvoir ou de manipulation ?
Je pense que chacun peut entretenir un commerce spécifique avec cette pièce et y puiser, en effet, quelques raisons de séduire ou de se laisser séduire. Mais en réalité, c'est toujours un dialogue avec un très très beau livre qui permet à la diversité des talents de se manifester dans ce domaine comme dans d'autres. On peut aussi rester chaste après l'avoir vu parce que c'est assez effrayant.
Oui, et ça peut permettre de se méfier tout simplement de son prochain. Si l'on veut changer les choses dans le secteur culturel, Jean-Noël Jeannet, a-t-on plus de pouvoir en faisant partie d'un gouvernement ou en dirigeant une grande institution publique, vous qui avez fait les deux ?
Il est difficile de faire le départ entre l'un et l'autre. Conduire une maison comme celle-ci, c'est une aventure magnifique, surtout quand on vous en charge à 40 ans et qu'on vous laisse, au fond, largement la bride sur le cou. Mais c'était un moyen, effectivement, de soutenir une idée qui était fondamentale et que nous avons, je crois, incarnée, je le dis sans fausse modestie, c'est-à-dire la vertu du secteur public, celui qui fonctionne sur d'autres ressorts que celui de la quête du profit. C'est bon qu'il y ait aussi des médias qui soient des médias privés parce que ça stimule, ça nous stimule. Mais enfin, la radio, c'est merveilleux. Et Radio France, en plus, même après mon départ, a renom bien tenu. Oui, puisqu'aujourd'hui, elle s'adapte de façon splendide aux nouveaux défis que nous connaissons et que nous abordons.
Et vous y œuvrez toujours. C'est la 26e année que vous animez Concordance des temps. Ne vous êtes-vous jamais lassé ?
Non. Je suis à peu près à mi-cours.
Ah oui ?
Oui, c'est ce que je considère maintenant. Ça ne dépend pas uniquement de moi.
Non, c'est réjouissant. Je pose souvent cette question aux historiens. Est-ce que le fait de connaître l'histoire et ses cycles vous rassure, puisqu'ils se répètent, ou vous inquiète ?
Je ne crois pas qu'il y ait des cycles en vérité. Je pense que l'histoire ne se répète jamais à l'identique, elle a trop d'imagination. Je pense qu'il y a des rimes, des échos, des rebonds, de similitudes, et que l'histoire, de cet égard, est, comme disait Cicéron, vous savez, une maîtresse de vie, c'est la meilleure pédagogue, je crois, pour organiser le comportement politique et autres. C'est pour ça qu'être historien, c'est un des plus beaux métiers du monde. Et quand j'étais responsable de cette maison, il m'est arrivé de me demander à quoi servait le fait que j'avais ce type de culture. Je pense qu'un psychologue ou un psychanalyste aurait eu aussi du travail. Un sociologue, sûrement. Mais il m'est arrivé de me dire que ce n'était pas sans quelque avantage de pouvoir connaître les précédents, de resituer toujours l'actualité dans la longue durée. Car c'est ça notre privilège. Il arrive un événement qui peut nous bouleverser, inattendu toujours, mais nous pouvons chaque fois essayer de discerner dans cet événement ce qui est la part du hasard, immense en histoire, sa majesté le hasard, disait Voltaire, et ce qui au contraire est l'effet de mouvements de moyen terme et parfois de mouvements de beaucoup plus long terme. C'est cette coagulation, on pourrait prendre une image géologique, qui m'a toujours paru passionnante.
Vous avez toujours œuvré pour que nous, publics, accédions à l'histoire de façon ludique et dans le sens noble de la vulgarisation, c'est-à-dire rendre accessible un savoir au plus grand nombre, notamment à travers les rendez-vous de l'histoire de Blois, à travers la revue L'Histoire. Avez-vous noté, sur votre émission bien évidemment, avez-vous noté des changements dans le traitement de l'histoire ou son apprentissage à notre époque ?
Je pense que quand j'étais étudiant, il y a déjà quelque temps, on s'intéressait beaucoup du côté de l'histoire universitaire aux mouvements de fond, de longue durée. On avait un certain mépris pour l'événement. Vous savez, on l'abandonnait à des revues jugées comme plus populaires, comme Historia, que pourtant j'ai aimé quand j'avais 10 ans. Et de ce point de vue-là, les choses ont évolué, bien sûr, car nous sommes de nouveau aperçus, je parlais de l'événement tout à l'heure, que l'événement pouvait être en soi non seulement réjouissant, ou terrifiant, mais aussi pédagogique, à condition de s'efforcer à chaque moment d'avoir la lucidité, d'aller chercher derrière la mousse des choses, ce qui peut être plus profond et ce qui peut par conséquent, non pas nous dicter une action comme homme d'État ou comme citoyen, mais inspirer une réflexion qui se laisse moins hébétée par le bombardement des choses.
Mais justement, y a-t-il une accélération des choses qui empêche la pensée aujourd'hui ?
C'est drôle, j'ai fait un livre un jour sur l'accélération de l'histoire. Oui, je sais pas le premier, mais c'est un peu une illusion, je crois. Certaines choses s'accélèrent, bien sûr. Regardez, évidemment, les effets de la technique et des nouvelles technologies. C'est une révolution équivalente à celle de l'invention de l'imprimerie, mais les choses se passent beaucoup plus vite. En revanche, il y a des choses qui vont beaucoup plus lentement. Le seul fait de l'allongement de la vie fait que la mémoire des uns et des autres fait qu'elle se tisse, qu'elle s'organise sur un rythme plus lent. Donc, à cet égard, comme à d'autres, il ne faut pas être systématique.
Oui, et puis souvent, on est tenté par le « c'était mieux avant », et je rappelle dans ces cas-là qu'avant, à 12 ans, on avait la syphilis, donc il y a quand même eu pas mal de progrès et de façons de se réjouir.
Et on avait très mal aux dents quand on allait chez le dentiste.
Oui.
C'est vrai, alors c'est très
ça
intéressant.
Ça peut arriver encore.
C'est un sujet passionnant. Michel Serres en était occupé, Gilles Fagnon aussi. C'était mieux avant. Il y a des choses qui étaient mieux, franchement. L'éloquence parlementaire,
oui.
C'était mieux.
Ou l'éloquence tout court.
Oui, notamment celle qui me préoccupe comme historien du politique. Mais je pourrais citer d'autres choses, bien sûr. Mais un jour, mon père, qui avait 95 ans, a été invité dans une émission de télévision avec d'autres nonagénaires. On lui a dit quand même, c'est terrible, tout se dégrade, c'est épouvantable, avoir 20 ans aujourd'hui. Il a dit, écoutez, moi, j'ai eu 25 ans en 1935. Et croyez-moi, ça n'était pas gai. Alors, gardons le sens du relatif, ce qui ne veut pas dire qu'on doit se résigner à quoi que ce soit d'intolérable.
Non, c'est un très bon argument.
La 20e heure, Eva Bester, sur France Inter.
Jean-Noël Jeanneney, François Mitterrand, vous avez confié l'organisation des cérémonies du bicentenaire de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1989. Et vous aviez invité à cette occasion la cantatrice américaine Jessie Norman à chanter la Marseillaise qu'on entend rediffuser sur Antenne 2 en 89.
Oui.
Pourquoi une américaine ?
Ah, parce que nous n'étions pas oublieux du fait que la République française a été universelle. Nous n'avons pas statué pour nous-mêmes. Nous avons eu la prétention un peu folle, mais finalement très stimulante. Je dis nous autres de 89, nous avons eu la prétention de pouvoir parler pour l'humanité. Je dirais que cet universalisme dans la conjoncture actuelle, il n'est jamais mauvais de le rappeler.
Les droits de l'homme que vous considérez évidemment pour l'humanité tout entière, ont-ils une valeur ?
Mais ils ont une valeur immense.
Oui,
ils ont
mais si on ne les respecte pas, si c'est simplement du papier.
Ah non, mais on les respecte très largement dans beaucoup d'endroits. Simplement, toute règle, par définition, est violée. La question est de savoir ce qu'on peut faire pour empêcher qu'elle le soit. Et en quoi on est capable de transmettre surtout ces valeurs de génération en génération, d'où l'importance de l'éducation, bien sûr. Car ce n'est pas parce qu'une loi est violée qu'elle perd de sa force. Ce n'est pas parce que la lèpre de l'identitarisme, par exemple, actuellement est en train de surgir ici ou là, que la valeur de l'universalité, c'est-à-dire l'idée que l'on peut, oui, on peut créer, on peut afficher des règles, des lois qui sont valables pour l'humanité entière et que ceux qui se sont battu pour cela, méritent notre considération et surtout que nous nous inspirions de leur message sans aucune grandiloquence, mais avec détermination pour mieux vivre aujourd'hui.
Mais il semble qu'à une certaine époque, nous avions des idéaux et il y avait plus de substance dans ce genre d'idées nobles et grandes et qu'aujourd'hui on les a tant répétées qu'elles sont presque galvaudées, qu'on n'entend même plus de contenu.
Tiens, vous dites c'était mieux avant ?
Non, je me pose la question. Je dis que parfois on nous a tant rabâché de très très belles choses qu'on ne se rend plus compte de leur beauté.
Ah, ça c'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut sans cesse piquer la mémoire pour le rappeler. Cela dit, les événements, reconnaissez-le, surtout dans notre conjoncture, sont tout à fait destinés à nous piquer de la sorte, étant donné les périls qu'il y a à abandonner les grands principes de 89. Si vous prenez par exemple l'héritage que j'évoque dans ce livre, La République française, l'héritage de la liberté d'expression, la loi magnifique de 1881 que j'ai étudiée de près, et qui affirmait quoi ? Qui affirmait deux choses. Qui affirmait, un, qu'on avait droit au blasphème, il fallait se le rappeler, contre les prêtres députés qui disaient « Mais enfin, vous n'allez quand même pas insulter Dieu, il faut le protéger par là ». Par la Constitution, Clémenceau répondait, ils sont assez grands pour se défendre eux-mêmes. Dieu est assez grand pour se... Il en était un ou plusieurs. Et en même temps, c'est aussi important. Ils se sont passionnément attachés à protéger les individus contre toute attaque qui se fonderait sur leurs croyances, leur origine, leur ethnie, leur famille, ou quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que la Déclaration des droits de l'homme reste si présente. C'est pourquoi la loi de 1905... est si importante, c'est-à-dire qu'il faut séparer l'Église et l'État. On a le droit de blasphémer. C'est évident qu'au moment de l'horreur de Charlie et du massacre, chacun a eu à se le rappeler. Mais il faut se le rappeler constamment, parce que c'est fondamental. Et il faut enseigner ça aux enfants de notre pays, quel que soit leur appartenance. Je m'emporte un peu, mais c'est un acte de foi que je crois important de réitérer en chaque occurrence.
Alors, il y a plusieurs d'entre nous qui n'avons aucune culture historique. Si vous deviez recommander un ouvrage très accessible, plutôt ludique de préférence...
En dehors des miens.
Oui, en dehors des vôtres, bien entendu, qui sont au-dessus de tout. Qu'est-ce que vous recommanderiez comme lecture ? Pour avoir toute l'histoire du XXe siècle, par exemple, ou le résumé des siècles précédents qui ont un peu compté aussi.
J'irais presque jusqu'au XIXe siècle,
oui.
C'est-à-dire jusqu'à Michelet.
Ah bah merveilleux, en plus il a un style littéraire magnifique.
Bah, je crois qu'un des avantages de notre discipline, c'est que nous ne sommes pas indifférents à l'expression, à la langue, au style. D'autres disciplines, je ne les blâme pas, ont un peu renoncé à cela, surtout lorsqu'ils publient surtout en anglais.
Eh bien, je les blâme, moi, Jean-Noël Jeannet.
Faites, blâmez.
Je le fais. Et on écoute une de vos créations.
Laissez donc pleurer les garçons, ne contraignez pas leur peine à se taire. Laissez donc pleurer les garçons, la larme est un baume au cœur solitaire.
Jean-Noël Jeannet, vous avez écrit les paroles de 18 chansons pour mémoire avec des mélodies signées Antoine Salaire, qu'on peut écouter sur toutes les plateformes ou sur disque par le label Le Furieux Musique. Il y a aussi un ouvrage qui accompagne le disque, publié aux éditions Équateur. Et là, on entend le morceau « Laissez donc pleurer les garçons ». Et je voulais savoir si vous étiez dénué de mélancolie.
La mélancolie, c'est un mot que j'ai presque envie de vous abandonner en souvenir de vos si belles émissions. Est-ce que j'ai de la mélancolie ? La mélancolie n'est pas, si vous l'avez suffisamment expliqué par le truchement de vos invités, la mélancolie n'est pas négative, elle est peut-être féconde, elle peut être simplement à condition qu'il ne faut pas s'en laisser accabler. Mais je peux vous dire en confidence que la mélancolie ne m'a jamais accablé.
Mais ça dépend. Mais j'ai noté tout de même que vous m'aviez peut-être rendu hommage de façon indirecte dans vos mémoires puisque vous utilisez Remède à la mélancolie.
Je suis débusqué.
Oui, dans le tome 2.
Oui, exact. Oui, alors, mais en même temps, voilà, c'est faire des chansons comme ça, pour moi, c'est exprimer l'évidence que l'histoire peut s'enseigner, se dire, se répandre de diverses façons.
Et par le divertissement, c'est un bon biais.
Par l'érudition, qui est très importante, la véracité des choses, la réflexion sur les mouvements, et puis le théâtre, et puis la musique, effectivement. La musique, je dois dire, quand vous donnez mes collègues les plus rassis, quand ils ont appris que je faisais des musiques, je faisais des chansons magnifiquement mises en musique par Salaire, m'ont regardé avec des yeux comme des soucoupes. Et puis, il a fallu qu'ils s'y habituent. Je trouve tout à fait remarquable d'enseigner l'histoire de façon différente. Alain Decaux, quand j'étais jeune étudiant ou jeune enseignant, était très méprisé. Parce que c'était la télévision, on craignait qu'il y ait une concurrence, que les enfants, en plus, les écoutent tard et arrivent avec des yeux cernés le lendemain dans la classe. Eh bien, je l'ai invité à mon séminaire, il me l'a toujours rappelé depuis. Il me paraissait important, essentiel, de rendre hommage à ce type d'histoire aussi. et toute la gamme, c'est aussi un des charmes de notre métier, c'est que toute la gamme des façons d'expression est possible. Et le théâtre, de la même façon, semblablement m'a passionné à cet égard aussi.
On va y venir, mais pour les chansons, dans l'introduction du livre qui accompagne le disque, vous rappelez très justement, Jean-Noël Jeanneney, que Rue de Bussy au caveau, Voltaire commettait des couplets parfois grivois, que Rousseau récitait des poèmes de Clément Marot, et dans vos mémoires, on lit votre goût précoce pour le canular et on apprend que votre vade-mecum, c'est le rire de Bergson.
Oui, le canular, c'est vrai que j'étais à l'école normale, il y avait deux fratries, il y avait les élèves de Althusser, les philosophes tout à fait remarquables, ils ont écrit des choses magnifiques, mais qui, à nos yeux, n'avaient guère de sens de l'humour. Et nous avions envie de perpétuer la tradition du canular qui remontait notamment à l'entre-deux-guerres. Vous savez, quand on avait fait une réception pour défendre le malheureux peuple Paul d'Ève, qui n'a jamais existé, ou quand on avait s'était réuni pour inaugurer la statue de Jean-Sébastien Mouche, l'inventeur des bateaux-mouches, j'en ai d'autres. Nous avons fait deux choses. Nous avons envoyé un faux rapport du concours aux professeurs de Cagnes pour leur dire comment on avait interrogé. Alors, par exemple, il y avait en histoire des interrogations « qu'arriva-t-il ensuite ?» ou bien en philosophie, c'était « monade et limonade », etc. Parmi d'autres questions très, 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 très sérieuses. Et puis, nous avons présenté notre directeur à l'Académie française, avec tout un système qui a fait qu'on l'a cru. Et que ça a entraîné toutes sortes de conséquences. Le monde, on a rendu compte que samedi, c'était le jeudi que nous l'avions fait. Je ne rentre pas dans les détails, mais nous sommes beaucoup amusés. Il y a eu un grand article dans je ne sais quel journal, disait que c'était la médiocrité des autres candidats qu'il avait décidé à se présenter. Parce que le charme des canulars, c'est qu'on le lance et qu'ensuite, les mouches viennent s'y coller.
Alors, il y a une anecdote qui associe et démontre assez bien, justement, votre goût pour le drôlatique et pour le sérieux. C'est un déjeuner avec Suzy Delair. Et c'est là que vous avez vu le pouvoir de la drôlerie et du divertissement qui est souvent décrié par les gens sérieux. Et sérieux dans ma bouche n'est pas un compliment.
Eh bien oui, vous avez bien lu ce que j'ai en effet raconté, car c'est un souvenir très 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 chaleureux. J'avais demandé à Suzy Delair de la rencontrer, car je pensais qu'elle avait des archives intéressantes. J'étais à la Bibliothèque nationale de France, et ma responsabilité était d'attirer des dossiers de personnalités majeures, et pas seulement des grands écrivains ou des philosophes. Donc je l'avais invitée à déjeuner. Et il y avait une autre table, un très respectable président de chambre à la Cour de cassation, quelque chose comme ça, vraiment un magistrat que je connaissais, un homme tout à fait honorable. J'ai salué en arrivant, et puis j'ai commencé à parler avec Suzy Delair, et puis nous avons évoqué ces grands moments, et en particulier comment elle avait chanté la lettre à Metella, vous savez, dans Offenbach, dans la vie parisienne. Et puis tout à coup, emportée par son récit, elle a commencé à murmurer et à chanter un petit peu, elle a chanté de plus en plus fort, elle s'est mise à chanter, et j'ai vu le regard de cet admirable magistrat se tourner vers nous avec une sorte d'indignation, et puis cette indignation, tendrement, s'est progressivement muée en affection et en définitive en charme. Alors, c'est un très bon souvenir.
Oui, c'est très joli. Est-ce que vous considérez, vous qui êtes aussi l'auteur de 4 pièces de théâtre, comme un homme de scène ?
Ce serait beaucoup dire. J'ai été, en tout cas, l'homme d'une scène, ayant donné à connaître une pièce, en effet, qui a été mise en scène, qui a été jouée à Paris, beaucoup, et à Avignon. Mais je ne peux pas me réduire à ça. Mais en même temps, si j'étais défini comme ça dans 100 ans, dramaturge, ce serait un peu solennel. Et ça, vous savez, j'aimais beaucoup Robert Badinter. Il avait fait des pièces aussi tout à fait remarquables. C'est un autre personnage, je ne passe pas à son niveau. Mais enfin, à la fin de sa vie, nous nous voyions souvent et nous amusions à nous appeler « mon cher confrère ».
Mais là, je pense à Clémenceau, mais on n'en parle pas tout de suite. Parlons un peu.
Vous me gardez Clémenceau pour tout à l'heure.
Oui, je vous le garde. Je vous le garde avec d'autres types. Je vous le garde. Alors, il y a Suzy Delair, mais il y a aussi Arletty qui vous a su gré d'avoir prolongé des choses qui plaisaient fortement à votre grand-mère Marie-Octave Monod à la radio toute la nuit.
Oui. Effectivement. Quand je suis arrivé ici, à la présidence de Radio France, la France Culture s'arrêtait à 1h du matin avec la Marseillaise. C'était solennel, mais frustrant. Et il m'a semblé qu'on pouvait faire les nuits de France Culture. Alors on m'a expliqué, comme toujours, que c'était trop cher, que c'était compliqué, que j'en voulais pas. Bon. Mais j'ai demandé quand même un budget, vu que c'était pas très cher. Et donc j'ai créé les nuits de France Culture, en sachant que ce ne seraient pas les grands bataillons qui nous écouteront, mais qu'il y aurait beaucoup de gens, de plus en plus, qui aimeraient nous entendre. Et peu de temps après, j'ai reçu effectivement une lettre d'Arletty, qui m'a dit qu'elle était pleine de gratitude pour ça, parce qu'elle dormait mal, et qu'en plus elle était aveugle, elle était devenue aveugle, la pauvre, et que par conséquent, la radio était devenue fondamentale, et qu'elle était très heureuse, et puis c'était avant les magnétophones, on pouvait pas bouger le livre dans la bibliothèque, on pouvait pas choisir l'heure de l'écoute, qu'elle en était très contente. Je l'ai invitée à déjeuner, par conséquent, ici, et c'est un souvenir également chaleureux que j'ai eu plaisir à raconter, en effet, dans ce livre.
Président Félix Faure, on vous a calomnié parce qu'un soir à l'Élysée, dans les bras d'une belle, au charme déployé, vous donnâtes à Vénus votre ultime pensée. Dès lors, votre parcours fut caricaturé, réduisant votre destinée au seul soupir final d'un bonheur concentré dans l'épectase ultime d'un tendre sigisbée.
Une chanson écrite par vous, Jean-Noël Jeanneney, président Félix Faure, un peu de grivoiserie sans aucune vulgarité pour décrire sa fin. Et il ne s'agit pas de parler de Félix Faure, mais de Clémenceau. Sauf si vous voulez citer le fameux mot de Clémenceau au sujet de Félix Faure.
Vous voulez dire, en entrant dans le néant, il a dû se trouver chez lui, c'est à quoi vous pensez?
Je pensais plutôt à il s'est voulu César.
Je vous en prie.
Et il est mort.
Je vous en prie.
Non, je ne peux pas le dire. Écoutez, je laisserai aux auditeurs le soin de chercher.
C'est un hommage aussi à Sylvie Berger de la Comédie Française, sociétaire qui chante ça magnifiquement. Comme tout à l'heure, c'était François Martouret. Je regretterais qu'on n'ait pas donné leur nom, puisqu'ils m'ont fait le privilège, effectivement, d'interpréter ces chansons, ce qui est un vrai bonheur.
Mais vous réparez la faute. Alors justement, j'arrive à Clémenceau, et nous n'avons pas cité le mot intégralement, je laisse aux auditeurs le soin de chercher l'intégralité de ce mot. Il faut dire que Clémenceau apparaît, Jean-Noël Jeanneney, non seulement dans vos ouvrages, mais aussi dans votre arbre généalogique, puisque votre grand-père Jules Jeanneney, dernier président du Sénat de la Troisième République, a été deux fois ministre de Clémenceau, puis de Gaulle.
Oui, c'est d'ailleurs un peu une fidélité dynastique, parce que j'ai le privilège actuellement de présider la fondation du musée Clémenceau, que j'engage chacun à visiter. Nous avons gardé l'appartement de la rue Franklin tel qu'il est exactement le jour de sa mort, et au-dessus, il y a une galerie pédagogique pour ceux qui veulent en savoir davantage. Peu de temps avant sa mort, mon père, dont le père lui-même, effectivement, c'est une fidélité dynastique, vous avez raison de le dire, c'est pas un privilège, mais je prends ça comme une chance. C'est peut-être un privilège, si. Et donc, il m'a dit, une dame âgée qui préside le conseil d'administration ne sera pas là tout le temps. Si jamais on te propose de présider le conseil, il faut absolument que tu acceptes de présider le musée. J'ai dit oui, papa. Et quelques temps plus tard, je l'ai fait. Ça, c'était ma petite parenthèse familiale.
Vous confessez dans vos mémoires ne pas savoir si Clémenceau était bon ou méchant, puisque tout circulait à son sujet. Et vous dites d'ailleurs, au sujet de Clémenceau et de Gaulle, que certains aspects vous déplaisent chez l'un comme chez l'autre, mais que ce sont d'abord et surtout des sources d'inspiration très fortes. J'aimerais savoir ce qu'ils vous ont transmis ou enseigné.
Je ne cesse pas de me référer à l'un et à l'autre, effectivement, c'est vrai, à portée de main dans ma bibliothèque. Clémenceau, ils n'ont pas assez de temps pour que je désigne tel ou tel des défauts qui peuvent m'avoir choqué, ou des comportements plutôt que des défauts d'ailleurs. Mais c'est vrai que la manière dont il a conçu sa vie, une liberté au service des valeurs de la République, que nous évoquions tout à l'heure, au service des valeurs de la liberté, au service de la liberté d'expression en particulier, au service du respect de l'homme, sa bataille pour l'affaire Dreyfus est absolument magnifique.
Alors qu'il n'était pas convaincu au départ.
Comme personne. Jaurès aussi pensait qu'on aurait peut-être dû le fusiller, parce que si c'était un traître, c'était très mal. Mais l'idée qu'on puisse condamner quelqu'un parce qu'il était juif, dans la ligne de notre conversation de tout à l'heure, c'était fondamental. Juste une parenthèse à cet égard. Vous savez que deux personnages ont réagi, et c'est la Troisième République que j'aime célébrer aussi, ont réagi à la manière dont Dreyfus, ignoblement condamné, a été finalement innocenté, très différemment. Herzl, fondateur d'Israël, a dit on ne peut pas rester dans un pays qui a condamné parce qu'il était juif un officier. Et le père de Lévinas, qui venait de Lituanie, le grand philosophe, lui a dit il faut habiter en France, mon fils, parce qu'un pays qui est capable de se lever pour défendre un homme seul qui a été injustement condamné, ça c'est beau. Donc vous voyez l'ambivalence des choses toujours.
Pourquoi aimez-vous tant la Troisième République? Peut-on être nostalgique d'une époque que l'on n'a pas connue?
Je ne suis pas nostalgique, je suis curieux, intéressé, j'en vois tous les défauts. Je dirais presque à chaque moment de cette analyse que j'ai faite au cours des décennies dernières, j'ai toujours été sensible à l'ambivalence des choses. C'est probablement la vie même. Prenez la liberté d'expression, par exemple. C'est un immense progrès. Nous en parlions il y a un instant. Pouvoir parler librement. Mais ce n'est pas une raison pour rejoindre M. Vance ou M. Musk. Oui. Parce que la Déclaration des droits de l'homme de 1789, dans un article 11 magnifique, disait que on pouvait défendre la liberté d'expression dans les limites indiquées par la loi, la formule est plus belle. Et ça, c'est fondamental. Autrement dit, il est tout à fait légitime. Et la Troisième République, de ce point de vue-là, est ambivalente. Je ne m'y attarde pas trop, mais quand même, on peut voir à quel point, à la suite de cette loi sur la liberté d'expression, on fleurit des journalistes d'une très grande qualité, ont pu être conduits des combats comme celui de l'affaire Dreyfus, et en même temps, combien cette époque a été marquée par la vénalité de la presse qui venait sourdine jouer un rôle vraiment méphitique dans le fonctionnement de la presse à l'époque. Il y avait les deux. Et cette ambivalence-là permet de choisir ce que l'on veut poser comme un objet de fidélité et ce qui vous met en garde contre des dérives éventuelles.
J'aime que vous employiez le mot méphitique et justement, je vais revenir au vocabulaire dans un instant.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Jean-Noël Jeannet, vous venez il y a quelques minutes de prononcer le terme méphitique. J'ai dit dans l'introduction que vous étiez l'un des êtres que j'admirais le plus pour sa maîtrise de la langue française. Vous avez écrit que vous tendez à penser que l'appauvrissement de l'art oratoire en politique n'est pas seulement dommageable en termes de plaisir esthétique, il l'est aussi pour le commerce même des dirigeants avec leurs concitoyens. Et vous recommandez chaleureusement de relire les interventions alternées par lesquelles s'affrontèrent Jean Jaurès et Clémenceau en 1906. Il y a aussi un chapitre dans votre anthologie Une République française consacrée à Victor Hugo. Moi, j'aimerais vous demander un conseil de lecture pour les auditeurs qui voudraient améliorer leur verbe.
Ah, voilà qui me prend effectivement un peu à l'improviste. Je crois tous les grands poètes, d'abord, vous parlez de Victor Hugo. Victor Hugo, j'en parle assez longuement, alors que c'était une conférence à l'occasion du centième anniversaire de sa naissance en 2002. C'est une source à laquelle on ne cesse pas de s'abreuver. André Gide, je l'aime bien, j'aime beaucoup son anthologie, mais je ne lui pardonne pas ce mot idiot qu'il a eu quand on lui a demandé quel était le plus grand poète français. Il a dit Victor Hugo, hélas.
Oui, mais alors moi, il y a plusieurs choses que je ne pardonne pas à André Gide. La première, c'est qu'il utilise par contre plutôt qu'en revanche.
Et seconde, par ailleurs.
Oui. Par ailleurs, c'est effrayant. Peux lui pardonner.
Ah non, pourquoi vous êtes un peu. Oui, pourquoi
vous
êtes tolérante.
Chose, non, pas tellement.
Par ailleurs, d'autre part.
Oui, d'accord, d'autre part.
On met pas.
Et vous savez qu'il n'a pas salué Oscar Wilde à la fin de sa vie en le croisant sur un trottoir de Paris. Ce sont les deux choses pour lesquelles j'aborde, j'exècre André Gide.
Vous voyez comme vous aimez les mots.
Oui, il a un certain style. Victor Hugo a écrit, partout où il y a un chant, partout où il y a un esprit, il faut qu'il y ait un livre.
Oui, il y a toutes sortes d'écrits magnifiques. Mais franchement, André Gide, tout de même, quelque chose de gentil. Parce que.
Oui, quand, bon, j'ai été un peu sévère.
Non, mais chaque fois que je vais à l'étranger, qu'il m'arrive d'être obligé de parler anglais pendant une journée, le soir, dans ma chambre d'hôtel, j'ai l'anthologie de la poésie française de Gide.
Mais je l'ai
la
aussi,
Pléiade. Vous
je
l'avez
le
aussi,
confesse.
Qui est vraiment très très belle, très bien, et qui. J'en ai besoin en particulier après avoir jargonné dans la langue
de Shakespeare.
Qui nous revient. Oui, de Shakespeare, ça c'est plutôt bien. Vous savez.
Oui.
Mais Clémenceau disait, au fond, l'anglais c'est du français mal prononcé.
L'expérience, elle permettra de se rendre compte s'il est possible ou non de concilier la justice sociale et la concorde civique.
Est-ce que c'est le discours de la Société des Nations?
C'est Léon Blum à Toulouse en 1936. Vous l'avez mis en scène avec Georges Mandel dans une de vos pièces de théâtre. L'un de nous deux, vous avez imaginé leur dialogue en prison en 1944. Léon Blum est plus connu que Mandel aujourd'hui. Et Mandel, qui sera assassiné, qui vénérait Clémenceau, souffrait de sa laideur et de sa faible santé. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur lui? Puisque je pense qu'il a été chargé aussi de hautes responsabilités concernant la radio.
Georges Mandel est un personnage passionnant. Cette pièce est en effet un dialogue entre Blum et Mandel, au moment où, en prison, ils apprennent que Philippe Henriot, le ministre de la propagande de Vichy, a été assassiné, et donc ils savent que l'un d'entre eux va être livré aux Allemands. Et donc ça donne à leur conversation quelque chose peut-être de plus aigu et parfois nostalgique. Et bien Mandel, c'était, et au fond c'est encore un dialogue entre, en même temps entre Clémenceau et Jaurès. Ils avaient magnifiquement dialogué vers 1906 à la Chambre, etc. Donc, parce que chacun a un grand homme différent. Pour Clémenceau, pour Georges Mandel, c'est Clémenceau. Et pour Blum, c'est évidemment Jean Jaurès. J'ai aimé aller faire dialoguer pour montrer tout ce qu'il pouvait y avoir entre eux, effectivement, de commun et de différent. Et ça a été, c'est un bonheur. Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la scène, vous savez, se mettre dans un fauteuil, voir tout à coup la lumière qui arrive et des gens qui se mettent à prononcer ce qu'on a écrit, c'est vraiment stupéfiant.
Alors, vous savez que grâce à vous, j'ai appris que Léon Léon Blum qui vénérait Jaurès est l'auteur d'un livre intitulé « Nouvelle conversation de Goethe avec Eckermann ». Et moi, un de mes livres préférés, c'est « Conversation de Goethe d'Eckermann ». Alors, qu'est-ce que c'est que ce livre ?
C'est un livre qui était rédigé en plus tout à côté, puisque c'était à Weimar, qui était à quelques pas.
Je suis allé sur les traces de
Goethe. Qui
était
à quelques pas de leur prison, effectivement. Mais c'est un livre qui s'inscrit dans la grande tradition des dialogues fictifs entre un grand homme et quelqu'un d'autre, et qui porte de cette façon-là, on trouve ça chez Valéry, on trouve ça chez beaucoup d'autres, qui porte par là, de façon plus contrastée, parfois plus vivante, parfois plus rocailleuse aussi, deux pensées qui s'affrontent.
Jean-Noël Jeannet, la mort vous a frôlé deux fois. La première fois, à 19 mois, vous n'en avez pas de souvenir, mais un dépôt de munitions allemand a explosé à proximité de chez vous, à Grenoble, en 43, les éclats de verre ne vous ont pas touché. La seconde fois, vous étiez adolescent, en voiture.
J'étais en deux chevaux, je revenais de Grèce, ça se pratiquait à l'époque avec des camarades.
Le grand tour.
Un petit grand tour, oui, pas encore le grand tour. Ça a été pour plus tard, j'ai fait le tour du monde ensuite grâce à une bourse magnifique. Mais là, je revenais de Grèce, effectivement, et en descendant du col de Sustaine, c'est le côté du Saint-Gothard, nous suivions une voiture américaine qui était impressionnante. Et comme il pleuvait beaucoup et qu'il y avait du crachat, on ne voyait pas grand-chose. Donc nous sommes dit qu'en suivant cette voiture, nous arriverions à bon compte en bas. Et tout à coup, il y a une espèce d'explosion, de mouvement de chaleur, de lumière incompréhensible. C'était un énorme rocher qui s'était détaché à cause de la pluie, qui avait écrasé la voiture dont les 5 habitants sont morts. Et nous sommes arrêtés à 3 mètres. Je crois que la deux chevaux n'aurait pas non plus résisté. Et par conséquent, j'ai vu là, et pour un historien, c'est encore une fois important, je l'ai dit tout à l'heure, le poids du hasard, le poids de la contingence. Et au lieu d'appeler ça « Ah, quel beau temps j'ai vécu » ou bien « Mes jeunes années » ou « C'était rudement bien avant », j'ai pensé qu'on pouvait appeler le livre « Le rocher de Sustaine » pour signifier cela. J'avais été inspiré en fait par Lanzmann qui avait publié le Lièvre de Patagonie. On voyait pas du tout le rapport avec ses mémoires. Et je me suis dit qu'après tout, il faudrait bien que mes lecteurs s'en accommodent d'as.
Mais je crois qu'ils l'ont fait.
Vous avez vu, en fait, je suis gentil, vous m'avez réclamé.
Je voulais réclamer, mais j'étais incapable de suivre. Vous avez gagné. Échec et moufle. Écoutez, je continue sur la mort, si vous me le permettez, puisque ce n'est pas anodin. Il y a les deux fois où la grande faucheuse vous frôle, et il y a aussi deux deuils précoces. Vous avez perdu un petit frère de quelques mois seulement, mort d'une méningite.
En effet.
Et vous avez été amoureux d'une petite fille, lorsque vous étiez enfant, morte, engloutie par une dune de sable. Je voulais savoir si la proximité de cette mort vous avait donné une lucidité précoce, vous avez enjoint à jouir, à relativiser ou à ne jamais perdre de temps. Ou peut-être rien de tout cela.
Romanesquement, j'aurais plaisir à vous rejoindre. Mais en l'occurrence, je ne peux pas vous dire que ça a marqué mon tempérament, que ça m'ait rendu sombre, veuf et mélancolique.
Je vois la référence. En troisième, vous avez rendu visite au poète Paul Fort qui vous a affirmé que pour être heureux, vous deviez vous faire accompagner toute la vie par la poésie, un propos auquel vous adhérez absolument. Et vous avez eu la gentillesse d'apporter un poème à lire aux auditeurs. Quel est-il ?
J'ai choisi un poème de Paul Valéry qui s'appelle « Les pas ». Je trouve bienvenu que pendant notre conversation, nous évoquions les événements placés dans la longue durée. Ce qui est avant, ce qui est après. Il y avait Félix Faure tout à l'heure, je reconnais que c'était plus Badin. Mais là, c'est un poème que j'aime beaucoup, tiré de Charme. Vous savez, le grand recueil paru dans les années 20, et qui peut, comme tous les grands poèmes, être interprété de façon différente. Le poème s'appelle « Tes pas ». « Tes pas, enfant de mon silence, saintement, lentement placé, vers le lit de ma vigilance, procède, muets et glacés. » Personne pure, ombre divine, qu'ils sont doux, tes pas retenus. Dieu, tous les dons que je devine, viennent à moi sur ses pieds nus. Si de tes lèvres avancées tu prépares pour l'apaiser à l'habitant de mes pensées la nourriture d'un baiser, ne hâte pas cet acte tendre, douceur d'être et de n'être pas, car j'ai vécu de vous attendre et mon cœur n'était que vos pas.
Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, cette haute faveur qui m'est choix s'accompagne à juste titre de quelques obligations. Les statuts de la Fondation Nobel condamnent aimablement le lauréat à faire une conférence sur son œuvre. Et si gênant que cela puisse être de parler de soi, il faut bien que je m'exécute. Je vous demande d'avance une grande indulgence. D'abord, parce que mon habitude de prendre la parole en public date exactement de 3 jours. Ensuite, parce que j'ai peur d'être un peu long. Quand vous serez là, de m'entendre, je compte sur vous pour me faire savoir par des mouvements d'impatience et des bruits divers, comme c'est d'usage dans les parlements politiques, que j'ai vraiment outrepassé les limites de votre attention et même de la traditionnelle courtoisie suédoise.
C'est Roger Martin Dugard qu'on entend lors de la réception du prix Nobel de littérature à Stockholm en 1937. Il figure, Jean-Noël Jeannet, dans la longue liste des auteurs qui vous ont enchanté.
Oui, en effet, les Thibault, ça a beaucoup marqué mon adolescence. J'ai eu plaisir, il y a quelque temps, à faire une émission de Concordance des temps sur Roger Martin Dugard. De temps en temps, on a le goût de donner à connaître des auteurs qui sont familiers aux plus anciens d'entre nous, mais pas toujours aux plus jeunes. Et voilà, essayez, vous allez voir. Et j'ai eu quelques échos, en effet. Les Thibault, c'était très important pour moi, effectivement, entre 12 et 15 ans.
Qui a-t-il d'autre dans votre panthéon actuel? Je crois qu'il y a Stendhal, Montaigne, Voltaire, Victor Hugo, La Fontaine.
Oui, La Fontaine, les contes de La Fontaine. J'ai hésité, puisque vous m'avez demandé de lire un poème, à vous proposer un conte de La Fontaine, mais ça aurait pris un quart d'heure.
Et pas une fable, donc un conte.
Non, je parle des contes. Bien sûr, j'adore les femmes et les contes. Bon, il y a un petit côté sulfureux, mais franchement, aujourd'hui, complètement éventé. C'est surtout un esprit pétillant, d'une finesse, d'une justesse qui enchante, en vérité. Si vous êtes un peu triste, lisez La Fontaine.
Ah bah écoutez, je pense qu'on va tous le lire sur la planète entière. Et il y a une chose que j'ignorais, c'est que vous avez eu une grande amitié avec le philosophe Clément Rosset.
Oui, nous sommes connus. Nous sommes connus en Cagne, en fait. Et nous avons fait ce qu'on appelait du petit latin ensemble. Ça consistait à, parce que c'était il fallait pour l'oral, il fallait pouvoir traduire sans avoir le dictionnaire du latin. Donc nous exercions ensemble. C'était moins ennuyeux que de le faire tout seul. Effectivement, j'ai retrouvé des notes sur nos entretiens que j'ai reproduites. C'est l'avantage d'avoir tenu un journal. Beaucoup de journaux et par conséquent de pouvoir retrouver des éléments de conversation plus précis que ceux que la mémoire à elle seule vous permettrait de restituer.
Clément Rosset souligne dans beaucoup de ses ouvrages que nous faisons absolument tout au long de notre vie pour ne pas voir le réel puisque le voir serait trop atroce et nous en mourrions. Comment vous accommodez-vous du réel ?
Oh, je pense que nous étions assez différents, je l'esquisse d'ailleurs dans le propos, il était moins sociable. Il avait fait profession de jouer la distance. Un ours serait excessif, mais il s'en était fait un peu le visage. Mais il avait une finesse, une originalité, une liberté d'esprit par rapport aux conventions ordinaires de la vie quotidienne et aussi de la pensée qui a continué pendant longtemps de me faire grand plaisir. Et puis il avait de m'inspirer. Il avait très jeune, avant même d'être reçu à l'école normale, il avait publié un livre sur le tragique. Je trouvais que pour un adolescent cagneux, c'était stimulant, lointain, et finalement propre à donner envie d'amitié. C'est ce qui est arrivé à ce moment-là. Ensuite, nous sommes un peu perdus de vue, mais plus tard, je l'ai accueilli à la Bibliothèque nationale de France pour y donner ses papiers, ses archives, peu de temps avant sa mort. Et j'aime assez, dans la longueur d'une vie, ces sortes de rebonds temporels qui ont parfois une durée et un rythme inattendu.
Dans les paniers d'osier de la salle des ventes, une gloire déchue des folles années 30 avait mis aux enchères parmi quelques brocantes un vieux bijou donné par quel amour d'antan. Elle était la figée superbe et déchirante, les mains qui se nouaient se dénouaient tremblantes, des mains belles encore déformées, les doigts nus comme sont nus parfois les arbres en novembre. Comme chaque matin dans la salle des ventes, pour donner une foule fiévreuse et impatiente, ce qui pour quelques sous rachète pour les vendre les trésors fabuleux d'un passé qui n'est plus. Dans ce vieux lit cassé en bois de palissandre, que d'ombres enlacées ont rêvé à s'attendre, les choses ont leurs secrets, les choses ont leurs légendes, mais les choses murmurent si nous savons entendre. Le marteau se leva dans la salle des ventes, une fois puis deux fois, alors dans le silence, elle cria : je prends, je rachète tout ça. Ce que vous vendez là, c'est mon passé à moi. C'était trop tard déjà dans la salle des ventes. Le marteau retomba sur sa voix suppliante. Tout tout se passe si vite à la salle des ventes. Tout se passe si vite qu'on ne l'entendit pas. Près des paniers d'osier dans la salle des ventes, une femme pleurait ses folles années 30. Et revoyait soudain défiler son passé, défiler son passé, défiler son passé. Car venait de surgir du fond de sa mémoire, du fond de sa mémoire, un visage oublié, une image chérie du fond de sa mémoire. Son seul amour de femme, son seul amour de femme. Hagard est sortie de la salle des ventes, froissant quelques billets dedans ses mains tremblantes, froissant quelques billets du bout de ses doigts nus, quelques billets froissés pour un passé perdu. Hagard est sortie de la salle des ventes, je la vis s'éloigner, courbée et déchirante. De son amour d'antan, rien ne lui restait plus. Pas même ce souvenir, aujourd'hui disparu.
Jean-Noël Jeanneney, c'est votre choix musical, Drouot de Barbara.
Oui, je mets très haut Barbara. Probablement en haut de mon panthéon de d'hommage à toutes ces chansons qui ont été celles qui ont... celle de mon adolescence. Je pourrais citer beaucoup d'autres noms qui vous sont familiers, mais elle, je l'aime beaucoup. Et puis cette chanson de surcroît, qui évoque donc cette ancienne actrice qui va vendre ses derniers bijoux, consiste aussi à penser au passé, au présent. Et dans les choix que vous m'avez demandé de faire, j'ai essayé de donner cette unité en historien. Le départ, c'est peut-être la mort qu'on attend aussi tout à l'heure, Valérie, on ne sait pas. C'est en tout cas, c'est l'attente. C'est un peu Julien Gracq avec Le Rivage des Sirtes ou Buzzati avec les Tartares. Donc là aussi, c'est le dialogue entre le bonheur du passé et la douleur de l'instant, exprimé avec une force et une poésie qui, chaque fois, me laisse ému.
Dans le tome 2 de vos mémoires, vous écrivez « Depuis la plus haute antiquité, toute situation qui place quelqu'un pour un temps dans la lumière du haut de l'échelle suscite aussitôt tous les ragots possibles, y compris les plus absurdes, sur la vie privée supposée dissimulée de celui ou de celle dont il s'agit. Je rappelle que vous avez dirigé Radio France, la BNF, les Rencontres d'Arles, que vous fûtes, je déteste fûtes, mais je l'emploie quand même en votre honneur, par deux fois secrétaire d'État. Avez-vous souffert de cela et comment avez-vous fait face aux inimitiés ?
Franchement, j'ai des êtres près de moi qui pensent que c'est très désagréable de ne pas être aimé, et que les gens disent du mal de vous. J'ai eu l'occasion, ici ou ailleurs, je ne vais pas détailler les cancans, je l'ai dit d'ailleurs dans mon livre, des choses qui étaient simplement absurdes et qui n'étaient destinées à me nuire. Simplement, j'avais décidé de m'en accommoder. Alors, ce qui doit être très pénible, c'est s'il y a quelque chose dont on n'est pas très fier, hein, qu'on a eu tort de faire, ça peut arriver, hein, et que quelqu'un vient mettre le doigt dessus et en faire une grande affaire, ça doit être pénible. Ça doit être pénible. Il y a un certain nombre de cas de suicide qui sont de gens comme ça. Bérégovoy, c'était ça, ou probablement Boulin. Donc, mais ça a un niveau évidemment qui est tout autre que celui de votre question. Mais effectivement. Très vite, parce qu'un peu, l'avantage, c'est que j'avais l'expérience quand même paternelle, presque grand-paternelle, puisque j'étais né dans la chaudière, hein, ou dans la marmite, comme vous voulez, enfin, ou dans le... Et donc, je savais quelle était l'incroyable force des cancans possibles. Mon grand-père m'avait dit, peu de temps avant sa mort, j'avais 15 ans, il m'avait dit, si tu veux faire de la politique, il faut te pachydermiser. Donc, avoir une peau de pachyderme. Et j'ai essayé de le faire. Je ne dis pas qu'on est toujours insensible, hein, il arrive qu'on soit touché, qu'on soit malheureux, qu'on dorme mal, etc. Mais au total... J'ai plutôt renvoyé cela à ceux qui étaient des vipères ou qui. Et puis je savais bien que quand on a des postes importants, qu'on est heureux de les avoir, que la chance a joué, mais peut-être un peu parfois le mérite, on suscite des jalousies. La jalousie, bon, alors voilà. Alors ensuite, on arrive dans le salon de Célimène et on entend dire du bien, plutôt du mal de tout le monde. Ce début n'est pas mal, et contre le prochain, la conversation prend un assez bon train. Vous vous rappelez ce que dit Philinte?
Ben, je me rappelle, bien évidemment. Donc, je le récite tous les soirs.
La conversation prend aussitôt un train de ce genre. Et puis, il y a des gens qui, bizarrement, ne vous aiment pas. On ne comprend pas, d'ailleurs. Mais c'est en dehors de toute autre raison. Mais surtout, ben, on est amené à prendre des décisions. On bouscule des gens. Il y a des gens qu'on ne recrute pas, des gens qu'on renvoie. Des gens, enfin, bref, dans l'action, il faut savoir qu'on ne doit pas... On va recevoir des coups. des coups. Et encore, je n'ai pas été au premier rang de la politique, mais ça devient vraiment quelque chose qui est inévitable. Il faut l'accepter au départ. Pardon ?
Vous ne les craignez pas, les coups ?
J'aurais préféré qu'elles soient épargnées, mais en plus, ils n'ont pas été très très nombreux. Mais surtout, la décision était de ne pas tenir compte de l'espèce d'ensemble, de l'espèce de marée de choses ignobles. Et il faut dire aussi que j'étais privilégié, les choses étaient mieux à cet égard, puisqu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux.
C'était mieux avant, vous voulez
oui,
dire.
Oui, c'est pour ça, j'ai pour vous donner un petit peu la satisfaction de pouvoir le répéter quand même. Franchement, s'il n'y avait pas cette espèce de dégoulinade d'horreur anonyme en plus. La calomnie est toujours anonyme, Beaumarchais oui. Le sait bien. Mais enfin, quand il n'y a pas de possibilité de le répandre aussi vite, c'est moins grave. C'est le bouche à oreille fonctionne. J'ai fait d'ailleurs une de mes chansons sur le thème de la rumeur au village.
Y a-t-il une idée qui vous appuie particulièrement dans l'existence ?
Oh, je ne suis pas assez simple, pas assez fort. Une seule idée, non, je ne suis pas capable de vous le dire, je déclare forfait.
Très bien.
Sauf l'idée, de ne pas rendre trop malheureux les gens autour de vous et d'apporter quelque chose autour de soi. Mais déjà dire ça, c'est déjà être prétentieux, donc je me hâte de me taire.
Alors, j'ajoute une autre question. Vous vouliez être philosophe, vous en avez été découragé par Michel Foucault et Jean-Hippolyte, qui est quand même très élégant. Vous êtes agrégé d'histoire et docteur en lettres, vous avez enseigné l'histoire politique, l'histoire culturelle et l'histoire des médias. Apprenez-vous encore ?
Tout le temps, ne serait-ce que parce que je fais de la radio, ma chère consoeur.
Oui, je sais de quoi je veux parler.
Et que par conséquent, on apprend toujours. C'est un des grands avantages de faire cela. Et puis, de toute façon, écrire des livres, c'est apprendre. Et enseigner, c'est apprendre. Bien sûr, franchement, quelqu'un qui ne cesserait d'apprendre tomberait net comme une sorte d'arbre creux.
Merci Jean-Noël Jeannet.
Merci de votre accueil.
Votre anthologie, Une République française 1870-1940, est parue aux éditions Bouquin. Et l'on peut vous fréquenter sans que vous ne vous en rendiez compte chaque semaine par le biais de votre émission Concordance des temps sur France Culture. Et je laisse aux auditeurs le soin de trouver l'heure de diffusion afin, bien évidemment, de ne pas faire d'ombre à ma propre chapelle. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Etel Alzial, Irma Danish et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïs Moreau. Thank you.